Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Jérémy Suchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ingénieur. On va parler un petit peu de ce monde-là. Jeune ingénieur, encore étudiant, je crois, à l'EPFL. Vous avez sorti avec un camarade à vous un projet de plateforme, de nichoir vertueux pour les oiseaux des lacs, en particulier du Léman. Ça s'appelle Léman 1. On va en parler assez largement. Le lieu, c'est miraculeux, le port de la Pichette à Corzeau. Voilà, sous un soleil de janvier, c'est beau, un port calme.
C'est magnifique, effectivement, surtout là, avec un beau soleil. Il fait un peu froid, donc il n'y a pas beaucoup de monde, évidemment, mais c'est calme, donc ça fait du bien.
Bon, il n'y a pas non plus d'oiseaux qui nichent, hein. On n'est pas dans la saison de ponte, évidemment, hein. C'est au printemps que ça commence. On va comprendre à quoi ça ressemble, votre bazar, on va en parler assez largement. Mais vous d'abord, je l'ai dit, vous êtes encore étudiant à l'EPFL. Par contre, alors voilà, je suis allé voir votre page LinkedIn. Pour les non-initiés, c'est du chinois, hein. J'ai noté robotique et micro-ingénierie, c'est ça?
Oui, exactement. Je fais d'abord un bachelor en microtechnique. Donc la microtechnique, ça va de l'horlogerie à aussi les petites puces électroniques qu'on a dans nos téléphones. Et ensuite, je suis en train de finir mon master en robotique. Donc on est un peu plus... c'est de la microtechnique, mais adaptée à peut-être des moins spécifiques aux petits. Donc c'est l'avantage de la microtechnique, moi ce que j'aime c'est qu'on fait un peu de tout en fait, on fait de l'électronique.
La microtechnique mais un peu plus grande, c'est ça.
C'est un peu plus grande, exact, mais c'est toujours un bon mix entre...
Moi j'ai lu sur votre page LinkedIn, la conception et réalisation d'un démonstrateur d'axes linéaires secondaires motorisés équilibrés dynamiquement et implémentés en guidage flexible. Je ne suis pas sûr que je vous aurais invité pour cette invention-là.
Oui, alors je comprends. C'est vrai que le nom, il est un peu long, le nom du projet. Mais voilà, ça c'était un bon exemple. Ça c'était plus la mécanique qu'on a derrière la microtechnique avec un petit peu d'électronique.
Vous êtes ce qu'on appelle un matheux ?
Un matheux, oui.
Ouais.
Oui, j'ai toujours aimé les maths. À l'école, ça a toujours été ma... comment on peut dire, ma branche favorite, parce que ben au final on peut, il y a une réponse et donc le prof n'a pas...
c'est rassurant
on n'est pas en train de voir
les sciences dures, hein, ça rassure,
se justifier.
Bon, en même temps, plus on avance dans les sciences dures, plus on se rend compte qu'il y a des incertitudes, hein, et puis qu'on arrive aux questions philosophiques finalement. Mais bon, vous êtes à l'EPFL, hein, donc on cherche des solutions. La solution dont on va parler aujourd'hui, elle est pas terriblement technique, hein. Il n'y a pas de... Je trouvais ça intéressant d'ailleurs que votre collègue et vous, tous deux issus de ces branches très techniques, nous proposent quelque chose finalement de complètement débarrassé de l'énergie, de... parce qu'en général quand on fait une nouvelle invention, bah, il y a des puces, il y a de la nécessité en énergie, non, vous revenez à la nature.
Absolument. Alors c'est vrai que c'est aussi parce qu'on a sorti... Donc ça a commencé par un projet académique, mais dans un contexte de cours qui est en fait les cours les moins techniques à l'EPFL, les cours de sciences humaines et sociales, un peu les cours que les ingénieurs n'aiment pas, parce que c'est justement les cours qui ne sont pas techniques. Mais là, on a pu c'était un peu un projet en collaboration avec l'ECAL pour le Design for Sustainability, donc essayer de
design pour la durabilité.
Pour la durabilité, ouais. Voilà, merci. Où on prend un problème de durabilité et on crée une solution d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas créer un produit en pensant à l'aspect durable, ce qu'on est aujourd'hui aussi beaucoup initié en ingénierie, donc à penser au recyclage, etc. C'est vraiment, on prend un problème qui est un problème existant dans l'environnement et on essaie d'amener une solution.
Alors on va y arriver, hein, à ce problème et à cette solution. Je regarde encore un petit peu votre parcours. Lycée français de Kuala Lumpur en Malaisie.
Oui, effectivement, j'ai fait 5 ans en Malaisie. Petite partie au lycée français, mais une grande partie à l'école internationale, où ça a permis d'acquérir l'anglais. Et c'était une super expérience. Je pense que ça a porté beaucoup à mon parcours.
Vous étiez jeune, vous avez suivi vos parents hein, qui étaient expatriés. Mais enfin, ça donne une ouverture au monde, un visage différent. Vous avez, je sais pas, vous aviez une quinzaine d'années, j'imagine, hein, si vous étiez au lycée. Vous avez eu ce choc des civilisations un peu quitter la Suisse, voir totalement autre chose, revenir en Suisse.
Alors j'ai pas eu ce choc pendant ce voyage parce que j'ai eu la chance de pouvoir voyager et voir aussi mon père qui a vécu en Côte d'Ivoire pendant quelques années, donc j'allais beaucoup là-bas. Donc là c'était plus choquant avant la Malaisie. Mais en fait ça a été aussi le retour qui a été choquant de voir notre belle Suisse, toute tranquille et tout.
Nos problèmes de riches. Hein.
Voilà, c'est un peu ça, mais c'est aussi notre confort de vie où on aime bien notre confort.
Il y a une image aussi de la Suisse qu'on peut... On est devant une carte postale, hein, ce port de la Pichette avec les Alpes françaises en face de nous. Alors moi, j'ai été expatrié pendant un certain temps, j'étais plus vieux que vous, mais j'ai aussi eu ce flash. Cette expérience d'expatriation m'a permis de me rendre compte à quel point mon pays était beau. Ça vous a fait ça aussi?
Oui, ça m'a fait ça, peut-être pas autant que vous, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le chaud et le soleil. Et donc c'est vrai que quand on a 3 mois dans l'année où c'est le chaud en Suisse, le reste de l'année c'est toujours un peu difficile quand on voit pas le soleil.
Ça s'étend un peu le chaud.
Ça, hein. Ça s'étend un peu, c'est vrai.
Bon, on va y arriver à cette solution que vous proposez. Pour le coup, alors pas technologique, puis je parlais de problème de riches, on y est. Hein. Vous essayez de gommer finalement des problèmes de cohabitation entre les plaisanciers, les gens qui ont un bateau sur le lac, et les oiseaux. Expliquez-nous ça.
Oui, alors pour parler un peu du problème, donc aujourd'hui on a... Alors, la source du problème, je dirais, c'est un peu le manque de biodiversité autour de nos lacs, parce que voilà, le Léman maintenant, c'est beaucoup du béton autour, pour nous, pour aller à la plage, pour les ports, et donc les oiseaux...
Pour les villas aussi qui
sont proches. Et les villas aussi qui sont proches, hein, tout à fait. Ouais. Et donc les oiseaux, ils ne savent plus forcément où nicher, les oiseaux lacustres bien sûr. Et donc ils vont dans les ports et ils commencent à nicher sur les bateaux, ce qui pose un vrai problème parce que il y a pas forcément tout le monde qui le sait, mais quand on a un nid sur un bateau, on n'a pas le droit de bouger son bateau.
Alors ça on va y revenir hein, sur ce problème de biodiversité et de cohabitation, hein, vous le relevez dans votre projet. Alors on est dans la bonne région en somme, hein, puisqu'on a une zone naturelle dans cet Est vaudois et Ouest valaisan qui est la réserve des Grands Jettes, où là en effet on a une zone accueillante, même si elle est pleine de problèmes. On a fait des émissions là-dessus aussi, les microplastiques, etc. Mais on a une zone accueillante pour les oiseaux. Le reste du lac, c'est très compliqué. Hein.
Oui, effectivement, c'est la seule, la zone des Grands Jettes, c'est la seule zone humide vraiment importante où les oiseaux peuvent retrouver un habitat naturel.
Voilà, alors on y revient, ceux qui se sont baladés un peu dans les ports l'ont souvent noté, en effet, sur les plages arrière des bateaux, parfois dans les cockpits, on trouve un nid dans les périodes de ponte. Alors c'est moins joli que sur les dessins, hein, c'est un peu deg, ils vont chercher des tas de choses, parfois même des choses polluantes, hein, des plastiques, etc., pour faire leur nid. On parle des grès buppés, des foulques aussi.
Des foulques macroules.
Des foulques macroules qui doivent trouver des solutions pour nicher. Vous l'avez dit, plus d'endroits sauvages, donc on trouve des solutions. Et puis alors, vous y arriviez, mais la loi protège ces nids. Hein.
Exactement. Alors de base, c'est la loi suisse pour la protection de l'environnement. Donc dès qu'on a, même sur Terre, hein, pas forcément sur un bateau, mais des œufs, on n'a pas le droit de détruire les œufs. Maintenant, c'est vrai qu'on n'en a pas... Normalement, sur Terre, ils arrivent toujours à trouver un espace... assez calme, où ça dérange pas tellement...
Bon, le principe des oiseaux, c'est qu'ils vont essayer de mettre ça à des endroits un peu inaccessibles.
Voilà, hein, ouais. Exactement. Là, dans les ports, c'est un peu différent, parce que ils se posent sur le bateau, et puis après, on n'a pas le droit d'utiliser le bateau pendant tant qu'il y a un nid, en fait.
Voilà, c'est ça. On ne peut pas sortir son bateau. Et puis, c'est pas maintenant, justement. C'est pas au cœur de l'hiver. C'est plutôt en saison. Hein, quand la saison reprend au printemps, que les gens ont envie de sortir leur bateau, ça fait un problème de coexistence. Moi j'ai eu un bateau pendant quelques temps et je me disais mais bon alors j'aurais jamais balancé un nid à la flotte, ça c'est sûr, mais j'ai pas eu le cas de figure, mais je me dis il y a plein de gens qui savent pas, qui peuvent pas toucher un nid. Hein.
Il y a effectivement plein de gens qui savent pas et c'est vrai que Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà détruit des nids. Après, on a pu avoir des discussions avec la police des faunes, puis eux, ils nous disaient, bah voilà, en Suisse, on est dans un pays de dénonciation. Donc, il y a quand même un peu... des fois, on ne sait pas, on se dit, ouais, non, il faut peut-être que je regarde si j'ai le droit. Et du coup, dès qu'on sait, quand on sait, ouais, on a l'information,
on le fait pas.
Voilà, ouais. On le fait souvent pas, parce qu'on a peur de se faire choper.
Bon, alors ces oiseaux, ils n'ont pas, un esprit pervers à aller embêter les plaisanciers, mais on l'a bien compris, hein, ils cherchent des endroits pour installer leur nid et leur ponte. Vous arrivez avec une solution qui a l'air tout à fait simple. On réexpliquera peut-être tout à l'heure comment vous y arrivez, mais c'est quoi ?
Donc c'est une plateforme fabriquée en liège qu'on peut placer, donc qui flotte, qu'on peut placer à côté du bateau, et puis qui recrée un environnement recherché par les oiseaux, surtout par le grébupé et puis la foulque mackerel, pour être beaucoup plus attractif pour eux et donc pour les inciter en fait à nicher dessus, à la place de nicher sur le bateau.
C'est même mieux, hein, c'est l'appartement témoin, vous le montrez dans votre truc, c'est même mieux pour eux parce que c'est à fleur d'eau, alors souvent les plateformes des bateaux sont un petit peu surélevées, donc il y a un effort supplémentaire à faire pour aller construire le nid, pour ensuite aller chercher de la nourriture. Là, vous leur donnez vraiment un environnement parfait, quoi.
Le plus parfait qu'on puisse, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. C'est aussi il y a un peu cette instabilité, c'est un peu ce que les ornithologues nous disaient, c'est que normalement ces oiseaux ils nichent donc dans les roseaux, donc c'est pas très stable. Alors que souvent une plateforme derrière un bateau c'est très stable. Donc si on met quelque chose d'instable qui flotte à ras de l'eau, normalement ils adorent.
Ouais, donc ils veulent une sorte d'instabilité. C'est dans la génétique en somme, hein, de leurs habitudes. Et puis là, il y a le clapotis qui leur donne cette instabilité-là. Vous avez fait des tests. On arrive à la fin de la première partie. Là, on va évidemment continuer tout à l'heure. Mais vous avez fait des tests. Ça marche ?
Oui, ça marche. Donc on a fait des tests la saison passée, qu'on a placé principalement au port de Vidy et puis dans quelques autres ports. Et ça a super bien fonctionné, dans le sens où on a posé un premier prototype en avril, et puis on a eu direct un nid au bout d'une semaine, quoi.
Ah oui.
Une à deux semaines.
J'ai même eu des plateformes qui ont eu plusieurs pontes dans la saison.
Voilà, exact, ouais. Parce que ces oiseaux...
Ça, on sait si c'est les mêmes oiseaux qui reviennent, genre c'est chez moi ou...
Alors,
faudra pousser les tests un peu.
Voilà, ça, faudrait pousser les tests, faudrait peut-être mettre des trackers sur les oiseaux pour vraiment être sûr. Ouais.
Bon, pour expliquer, hein, la plateforme, elle est toute légère. Ça fait quoi, moins d'un mètre sur un mètre, hein.
Oui, c'est 50 cm, voilà. Sur 80.
Voilà, donc c'est un rectangle, rectangle
c'est quand
même une
certaine qui flotte. Oui, c'est une certaine taille.
Il faut la place pour poser ce nid. Les grèbes, c'est des oiseaux, c'est pas des moineaux, hein,
c'est des
oiseaux quand même qui ont une certaine taille. Et puis, alors on attache ça à son bateau et c'est comme ça que ça marche en fait.
Oui, en fait, c'est modulable dans le sens où on peut l'attacher au bateau ou alors au ponton. Et puis du coup, ça permet... d'être déconnecté du bateau directement. Ouais. Et donc après, on peut la rattacher à notre ponton pour prendre le bateau.
Voilà, donc on peut déplacer sans toucher au nid, on peut déplacer la plateforme. Et c'est ça le principe vertueux dont on va continuer à parler dans la deuxième partie de cette émission.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Jérémy Suchet, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parlait de cette plateforme, vous l'avez appelée l'Aimant 1. Il y a un crowdfunding d'ailleurs qui est encore en cours.
Non, il est terminé.
Il est terminé.
Voilà, c'était un peu le problème, c'est qu'on l'a lancé pendant les fêtes, sur une période assez courte. On a peut-être visé un peu trop haut l'objectif. Maintenant, on a mis sur notre site un système de précommande où les gens peuvent directement l'acheter. Puis nous, on va produire les nids là dans les quelques semaines qui suivent pour essayer de livrer en fait pour le début de la saison de nidification qui est à partir de mars.
Donc essayer de livrer à ceux qui ont déjà commandé l'objet. Ça va durer quoi, une saison, plusieurs?
Alors justement on essaye de tester notre premier produit au max, donc il est encore dans l'eau, celui qu'on a placé en avril, et pour l'instant il a tenu, en tout cas jusqu'à maintenant, il flotte encore. Alors il y a un peu d'algues qui se met autour du liège.
Les oiseaux ne picorent pas le liège?
Non, ils touchent pas le liège. De toute façon eux ils amènent leur propre, comme vous avez dit avant, leur propre matériel pour le nid de fabrication, mais donc il flotte encore, donc on espère qu'il peut durer plusieurs saisons. En tout cas il dure une saison, ce qui correspond à quand même plusieurs pontes, et On a un bon espoir sur plusieurs saisons.
Bon, vous l'expliquez, hein, c'est un travail académique à la base. Donc, vous avez une branche, on l'a bien compris, hein, qui est un petit peu la branche annexe. La branche où on est bien obligé d'y aller, mais ce n'est pas ça notre souci principal. Vous trouvez un copain et vous vous intéressez au truc. Et puis, vous trouvez quelque chose, mais qui n'est pas de l'ingénierie. Ou du moins, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de robotique, il n'y a pas d'énergie mobilisée. Comment vous vient l'idée ?
Alors, d'abord, on est parti du problème. Tout d'un coup, on s'est intéressé aux bateaux. Moi, j'avais l'idée de plus par rapport au nettoyage des bateaux. Il y a des oiseaux qui viennent.
Vous n'avez pas de bateau, vous hein.
J'ai pas de bateau. J'avais des connaissances. Début, ouais. J'ai pu profiter d'aller sur des bateaux, sur le lac, quand j'étais plus petit, avec des connaissances à mes parents. Mais c'est vrai que, bah, voilà, il y a toujours les déjections des oiseaux qu'on doit nettoyer. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose là, on doit peut-être résoudre un problème. Puis après on a découvert
le Karcher, c'est déjà fait,
voilà, c'est ça. Mais on a les produits un peu toxiques, donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose là. Et puis au final on a vu qu'il y avait ce problème qui n'était pas résolu. Et quand on a vu l'ampleur en fait du problème, on s'est dit, mais c'est impressionnant,
voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on pose des problèmes pratiques dans les mains des ingénieurs, bah, ils vont faire un boulot d'ingénieur, donc ils vont aller consulter, enfin j'espère, du moins c'est la démarche. Vous avez consulté des ornithologues, vous avez consulté des plaisanciers, vous avez été parler au port.
Oui, exactement. Donc ça, c'était aussi
ça faisait partie de la démarche académique.
Voilà,
ça faisait partie
de la démarche, et c'était très bien parce que ça nous apprend vraiment à aller chercher les informations auprès des gens qui l'ont. Et donc oui, on a parlé à plusieurs ornithologues, à des associations aussi, et puis
BirdLife, hein, que vous citiez tout à l'heure, association de défense des oiseaux en Suisse.
Tout à fait. Après, on a eu aussi une grosse collaboration avec GOBG, qui est le groupe ornithologique du bassin genevois, qui eux, ils nous ont partagé en fait ce qu'ils avaient déjà essayé de faire comme projet pour résoudre ce problème. Et puis donc on a pu prendre ce qu'ils avaient fait, prendre un peu ce que les propriétaires de bateaux nous disaient, et puis on a fait un mix qui a été une réussite, quoi.
Concluant, vous avez une bonne... Enfin, c'est noté, cette affaire
Oui, c'était noté.
Vous avez une bonne note?
Oui, on a une bonne note.
Il y a un souci d'applicabilité, parce qu'on voit que vous avez créé une boîte, du coup, hein, avec votre collègue. Là, vous avez déjà commencé avec ce crowdfunding, puis ces pré-réservations à le commercialiser. c'est un des enjeux d'un travail académique comme celui-là?
Alors là, c'était une partie, il fallait montrer la viabilité. Donc on a, dans les projets un peu écolo, on peut se dire, ok, ça va être des fondations. Donc ça va être plutôt des gens qui vont nous donner de l'argent pour qu'on crée un projet, crée un produit. Maintenant, moi j'ai toujours voulu trouver en fait qui est capable de payer et pourquoi la personne va payer. Et là, je trouve dans ce projet, on a vraiment trouvé un problème qui coûte de l'argent à des propriétaires de bateaux, parce que l'immobilisation d'un bateau pendant un mois, c'est beaucoup. Et donc, ils sont prêts à payer pour essayer de le résoudre. Et donc, moi, j'ai aussi toujours un peu cet aspect business de par mes expériences académiques. Et donc, c'était important pour moi que ce soit viable. Et donc, après, quand on a vu qu'il y avait le problème, qu'on avait fait le boulot, que c'était viable, on a dit, let's go.
Bon, après, il faut produire. Hein. Comment vous envisagez la production pour répondre à la demande?
Alors d'abord, ça, c'est la partie nouvelle où on découvre plein de choses. C'est d'aller voir des fournisseurs, essayer de vraiment...
C'est en Liège, hein, le Liège. On n'en trouve pas au coin de la rue, il vient du Portugal.
Il vient du Portugal, donc c'est le plus gros producteur de Liège. Après, on pourrait en trouver ailleurs. Maintenant, on a envie quand même de rester un peu plus... le plus proche possible. Donc c'est le Liège, c'est toujours l'écorce d'un arbre. Donc on n'a pas besoin de couper l'arbre, donc c'est toujours aussi l'aspect... l'aspect durable. Donc on a dû aller voir des producteurs, et puis après maintenant on va faire notre première production nous-mêmes, donc avec des machines, vraiment couper, fabriquer nos pièces, l'emballage, etc. Puis après dans le futur on espère pouvoir déléguer ça à des ateliers
protégés.
Voilà, pour essayer.
Ça, c'est un aspect intéressant aussi de votre réflexion. Hein. Oui. Pour l'instant, c'est au stade de la réflexion. Vous avez pris des contacts déjà?
On n'a pas encore pris des
contacts.
Parce que
ça pourrait être, en effet, on sait que dans les ateliers protégés, il y a des productions. Les personnes en situation de handicap travaillent, ont un job. Et ce produit-là pourrait être...
Alors, la seule question qu'on a et qu'on n'a pas encore Enfin, on n'a pas trouvé. Voilà, résolu, c'est l'aspect, la découpe. On ne sait pas à quel point ils peuvent faire de la découpe.
Il y a un danger ou pas dans la découpe.
Voilà, par rapport au danger. Mais c'est une vision qu'on a, parce qu'on a envie d'avoir quelque chose qui soit assez local, parce que pour l'instant, on vise la Suisse, et puis d'essayer de fermer la boucle au niveau du projet, de la durabilité, et puis aussi de donner du travail à ces gens qui cherchent du travail, mais qui n'ont pas forcément... De cette manière, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi.
Vous allez être aidé, vous avez pris, parce qu'il y a des tas de concepts d'innovation, d'aide à l'innovation, etc. C'est tout simple votre affaire. Hein. Alors évidemment, comme toutes les choses toutes simples, il fallait y penser. Mais ça peut être un carton mondial. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi imité, j'imagine, hein, que c'est difficile à protéger une invention comme celle-là. Mais tout de même, c'est un problème qui se pose dans tous les ports.
Oui. Effectivement, le problème des oiseaux sur les bateaux, il y en a dans le monde entier, il y en a sur les bateaux dans mer et tout. Donc clairement, c'est quelque chose... d'abord, on vise là les lacs, donc on vise la Suisse, puis après on a envie de viser l'Europe, les lacs d'Europe. Maintenant, c'est vrai que c'est un produit tout simple, mais de mettre ce projet, de lancer quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué, de vraiment le vendre, l'amener.
Là, vous êtes à un moment charnière, hein. C'est le moment où il faut chercher de l'aide, vous en cherchez, vous en trouvez de l'aide, je veux dire, de gens qui peuvent vous aider à...
Alors, on a eu déjà en octobre la Fondation pour l'innovation technologique, la FIT, qui est dans le canton de Vaud, qui nous a, on a gagné un prix, enfin, ils nous ont donné un prix pour essayer de développer l'idée. Il y a un autre prix après, une fois qu'on a une entreprise, etc., qu'on est en train de regarder. Et puis, il y a aussi plein d'autres prix, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on pousse pour un peu de l'innovation avec un impact environnemental.
Puis de la, je ne sais pas si on le dit, mais de la low innovation, hein, c'est intéressant.
Low tech. Ouais.
Low tech, oui, mais là, pour le coup, vous avez une innovation, je le disais tout à l'heure, qui ne demande pas d'énergie, qui est simple et qui a une utilité immédiate.
Oui, et on est sur un... Pourquoi on s'est aussi lancé là-dedans, c'est que c'est assez niche. Je veux dire, on résout.
c'est un nichoir, même, on pourrait dire.
C'est un nichoir, mais un produit niche. Et donc, ça fait que on espère ne pas être trop vite copié. Donc, pour d'abord se créer un nom et essayer de montrer qu'on était là, et puis que nous, on a fait vraiment le boulot, quoi.
Bon, c'est une jolie aventure que vous lancez là. On l'espère avec succès. Je reste quand même sur ce j'imagine, hein, celles et ceux qui nous écoutent se dire, bon, ces gens-là, on leur paye des études quand même pour aller nous trouver des solutions technologiques de pointe, avec de la robotique, des petites choses extrêmement techniques. Vous avez quelque chose d'une radieuse simplicité. Y a un truc bizarre là quand même, non ?
Oui, il y a un truc bizarre. Effectivement, c'est... je pense que... Nous, de toute façon, pour un ingénieur, et puis après pour mon collègue Jérémy Lou, qui lui est un designer industriel, moi, il y a l'aspect, je dirais, problème. J'ai envie de trouver une solution à un problème. Maintenant, c'est clair, ça peut être un problème low-tech ou high-tech, mais il faut trouver une solution à un problème, et le problème est là. Et puis pour après, mon collègue, lui, il est designer industriel, donc eux, ils ont aussi l'habitude de vraiment prendre des... Essayer de revoir un peu les produits qui existent et puis essayer d'amener un nouveau truc.
Donc, j'ai bien compris ce qui vous motive, c'est le problème. Vous êtes jeune, hein, on l'a dit, encore étudiant, génération de ces jeunes gens qui regardent les questions climatiques, qui regardent le monde changer, qui en conçoivent parfois souvent une certaine angoisse. C'est votre cas. Vous nous sortez là quelque chose d'écologiquement vertueux, de simple, encore une fois, de pas polluant, de pas invasif, de durable. Ça fait partie de vos ambitions.
Alors je pense que oui, il y a une partie qui fait oui.
Ou bien vous êtes amusé avec un projet étudiant et puis vous allez nous développer une nouvelle méthode d'extraction de pétrole.
Non, alors ça je pense pas. Effectivement, je pense que notre génération elle a été sensibilisée aux problèmes environnementaux et donc dès qu'on peut jouer là-dessus, enfin en quelque sorte dès qu'on peut essayer d'amener ou d'améliorer l'environnement ou le monde en général, ça nous motive de base.
Ça motive vos profs aussi, parce qu'il y a aujourd'hui, alors je ne vais pas vous faire parler pour les PFL, hein, mais est-ce que vous sentez qu'il y a dans ces milieux extrêmement technologiques, extrêmement axés vers la productivité, hein, c'est les sciences appliquées, donc il faut que ça serve, et est-ce qu'on a un souci de durabilité aujourd'hui ?
Oui, on en parle beaucoup. Maintenant, on en parle justement de... ça vient un peu en deuxième temps, dans le sens où d'abord, on a l'innovation, on a la technologie, et puis après, maintenant, on regarde comment on peut essayer de faire qu'elle soit le plus durable possible. Mmh. Maintenant, il faut être honnête, quand on parle de technologie avec des puces et tout, il y a des choses où on ne peut pas... qui sont bloqués, quoi. Le recyclage, ouais, c'est des problèmes, quoi.
Puis l'extraction. Hein,
l'extraction, l'extraction clairement. Terras,
etc. Ouais.
Voilà.
Bon, il n'y a pas de technologie, enfin, il n'y a pas de puce. Hein, sur,
non, là, il n'y a pas de puce.
Les puces de canard, éventuellement, mais pas d'autres puces sur votre nichoir qui s'appelle l'aimant 1. Birds and Co. Hein, ouais. Birds and Co, c'est là-dessus qu'on va vous trouver sur Internet pour précommander, pour ceux qui ont un bateau, et pour la curiosité, pour ceux qui aimeraient voir à quoi ressemble votre système. J'aimerais qu'on termine avec une phrase que j'ai notée sur votre LinkedIn. Work while walking, hein, ça veut dire travailler en marchant. Voilà, ça conclut un petit peu ce chapitre sur la durabilité, sur la génération qui observe le monde. Il y a un côté Rousseau chez vous, un côté poète qui doit marcher pour trouver des idées.
Alors, c'est marrant parce que...
Vous n'en avez pas l'air comme ça, hein. Il va falloir vous laisser pousser un look de scientifique rêveur. Hein. Pour l'instant, vous faites bien cadre dynamique, quoi.
Oui, tout à fait. je pense aussi. Maintenant, ça, c'est plus par rapport à une activité externe que j'avais. Maintenant, je pense que si je dois plutôt prendre une citation qui est aussi sur mon LinkedIn, mais qui est, je pense, vraiment celle qui m'inspire plus, c'est « Do more than just exist, change the world ». Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours...
Fait plus que simplement exister, voilà. Change le monde.
Et ça peut être dans n'importe quoi, et on peut changer le monde de n'importe quelle manière. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie de profiter, en fait, aussi de la vie pour essayer de faire quelque chose, d'avoir un impact. Voilà.
Bon, bah changer le monde, changer celui des oiseaux, de nos porcs, en tout cas, et de leur coexistence pacifique avec les humains des porcs. Merci à vous, Jérémy Suchet.
Merci à vous.
Bonne continuation.
Merci.